RCF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ce vendredi 18h10, le dernier 18-19 en Champagne-Ardenne de la semaine pour nous accompagner. Une fois n'est pas coutume, Jean-Pierre Benoît est à nos côtés. Je dis une fois n'est pas coutume parce que le vendredi, Jean-Pierre, c'est quand même rare quand on entend votre voix en direct.
Oui, souvent je suis dans les Ardennes ou ailleurs, mais enfin c'est vrai que...
Vous êtes un baroudeur, vous n'êtes pas absent parce que vous ne faites rien, c'est parce que vous travaillez pour la radio, pour la station, vous allez sur le terrain. Jean-Pierre, au programme ce soir, on vous retrouvera en deuxième partie d'émission, notamment pour interroger Mgr Étienne Véteux, l'évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes.
Absolument, Mgr Étienne Véteux qui était à Ars, ils viennent de revenir et on aura l'occasion de le retrouver tout au cours de la semaine prochaine.
Merci Jean-Pierre pour ces précisions. On parlera de l'église aussi avec Jacques Cohen. L'affectaire, un locataire gratuit, c'est la question que se pose le professeur Jacques Cohen à l'intérieur de sa chronique d'actualité en revenant sur le nouveau spectacle à l'intérieur de la basilique Saint-Remi qui a été commandé par la ville de Reims ou en tout cas qui lance des hostilités pour proposer quelque chose de nouveau d'ici l'été prochain. Jean-Pierre, j'ai dit qu'on vous retrouve en deuxième partie de l'émission, mais on vous retrouve aussi en première partie de l'émission à 18h20. Un maire qui vous parle ?
Absolument, un maire qui nous parle. Et tout à l'heure, dans quelques minutes, on retrouvera Hubert Houdin, le maire de Semide, à côté de Vouziers, dans le département des Ardennes.
Un rendez-vous à vous annoncer pour la semaine prochaine. D'ores et déjà, ce sera les 7e journées. Bougeons-nous contre le cancer du côté de Vitry-le-François. Christiane Paris, présidente de l'association Arc-en-Ciel Vitria, sera notre invité et puis on fera également une très belle rencontre, celle de Grégory L'Herbier qui propose des stylos aux aires d'œuvres d'art personnalisées. C'est un artisan artiste installé du côté de Givry en Argonne. Voilà pour le sommaire de cette émission. Jean-Pierre, vous restez avec nous jusqu'à 19h, mais on a un petit peu de temps ce soir. C'est vrai qu'on termine cette semaine avec quand même quelques rendez-vous à annoncer pour la semaine prochaine, parce que notamment à partir du mercredi 14 février, mercredi des cendres, c'est l'entrée en carême et ça concerne les auditeurs de RCF un peu plus particulièrement.
Oui, d'ailleurs, on les retrouvera plus complètement lundi matin à 7h pour la présentation de ces programmes. Vous l'avez rappelé, Alexis, mercredi prochain, 14 février, c'est les cendres, entrée en carême, 7h-8h, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, en direct, à 7h et à 8h. On le retrouve également avec vous dans 3 questions A. C'est à 7h40 avec toute une série, Alexis, qui va durer tout le carême.
Effectivement, avec des religieuses et des religieux du diocèse de Reims et des Ardennes qui viendront répondre à 3 questions, peut-être un petit peu plus, en tout cas pour nos auditeurs qui sont fidèles au programme de RCF. Ils le savent, en 3 minutes 27, presque 3 minutes 30, donc on répond à un maximum de questions et ces religieuses et religieux du diocèse de Reims et des Ardennes nous diront ce que représente le carême pour eux. On vous retrouve, Jean-Pierre, d'ici quelques minutes de nouveau pour en parler, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, il faut ajouter que cette semaine, ce sera vendredi prochain, dans 8 jours, à 20h, conférence de Mgr Éric de Moulin-Beaufort à la Maison Notre-Dame à 20h à Reims, à suivre sur YouTube Diocèse. Et nous, on reprendra cette conférence le mardi qui suit, c'est-à-dire le mardi 20 février, à partir de 19h30. On revivra cette conférence.
Eh bien, je vous propose d'en reparler à l'intérieur du journal régional pour nos auditeurs qui nous prodraient en cours de route. Comme chaque vendredi, nous, on va commencer avec l'incontournable Jacques Cohen qui nous propose sa chronique d'actualité. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et aujourd'hui, Jacques, dans la chronique d'actualité, on va faire un petit focus sur ce qu'il se passe en local, notamment dans la ville de Reims, puisqu'il a été annoncé par nos confrères de l'Union dans la semaine, probablement un nouveau spectacle à l'intérieur de la basilique Saint-Remi, les soirs d'été. Tout cela à l'initiative de la ville. Jacques Cohen, qu'est-ce que ça traduit si on fait une photographie à votre manière ?
Eh bien, déjà que le spectacle qui tournait exceptionnellement l'été depuis plus de 25 ans ou quasiment était vraiment au bout du rouleau, à la fois dans son concept et aussi, il faut le dire, dans son matériel qui avait quand même n'avait pas suivi les évolutions de la technique. Donc le fait qu'il faille changer ce spectacle, personne ne peut le remettre en cause. La ville a choisi de faire un spectacle payant cette fois-ci en le concédant à une société pour le faire et non pas à une association bénévole avec les limites du bénévolat qu'on a vu dans ce sujet, c'est-à-dire que le bénévole, c'est très cher d'être bénévole, mais c'est disponible que de temps en temps et finalement le spectacle n'était projeté qu'exceptionnellement, nous dirons. Donc effectivement, c'est le même choix que nous avions fait 3 fois sur la cathédrale, c'est-à-dire de passer par une société extérieure que l'équipe suivante a refaite pour Régalia à l'extérieur de Saint-Remi. Il faut passer à un système professionnalisé. Là-dessus, il n'y a également pas beaucoup de discussions, si ce n'est peut-être sur le niveau technique et le niveau culturel choisi. Bon, par exemple, je trouve que la partie musicale de Régalia est très en dessous de ce que nous avions fait la fois d'avant. Pour le reste, je n'en dirai pas plus. Alors, il y a une discussion, c'est que la ville a prévu que ce spectacle dans la basilique serait payant, et l'archevêché a fait savoir qu'il voulait avoir son mot à dire. C'est l'occasion de reprendre un point sur les rapports de l'Église et de l'État dans les églises où les catholiques sont affectataires, en rappelant qu'il ne s'agit pas d'un point de dogme, si je puis dire, mais d'une évolution historique dont on va reprendre simplement les grandes lignes. Pour arriver à la situation actuelle, rassurez-vous assez rapidement. En 1905, donc séparation de l'Église et de l'État, les biens de l'Église deviennent ceux de l'État, en échange d'un certain nombre de facilités que l'Église catholique avait refusées, parce que choisissait l'épreuve de force. Contrairement au culte protestant ou israélite qui avait accepté, et on avait été très largement récompensé, puisque le propriétaire est intégralement responsable de l'entretien du bâtiment, qu'il permet que des associations culturelles soient distinctes des associations cultuelles. Les associations cultuelles, elles ne peuvent pas recevoir de subventions, mais les associations culturelles le peuvent, etc. Et l'Église catholique a finalement choisi de faire la paix. D'ailleurs, on peut rythmer cette paix par la progression de la sainteté de Jeanne d'Arc. Elle a été béatifiée, je crois, vers 1908 ou 1909, et elle sera canonisée beaucoup plus tard qu'on ne le pense, en 1920, pour sceller la réconciliation qui avait eu lieu dans l'union sacrée de l'Église catholique et de la République, où l'Église de France, un peu gallicane, s'était opposée aux tentatives de paix blanche auxquelles le Vatican était favorable en 1917. Donc, au-delà, l'Église catholique récupère les avantages des autres, et on a la situation qui n'a pratiquement pas changé. L'Église catholique est affectataire, c'est-à-dire qu'elle a toute latitude pour organiser comme elle le veut et quand elle le veut, toute manifestation du culte à l'intérieur de l'Église. Le propriétaire, lui, a toutes les contraintes d'un propriétaire. Il ne peut pas les virer, bien sûr, il ne touche aucun loyer, en l'occurrence. Il doit assurer l'intégralité de l'entretien. Mais on va voir qu'il peut y avoir des limites à cette notion d'entretien. L'entretien du gros œuvre, personne n'en discute. Mais l'entretien des orgues, par exemple, c'est plus discutable. Si ces orgues servent à la fois au culte et à des manifestations culturelles et touristiques, il n'y a pas de problème. La municipalité, puisque c'est le cas pour les établissements comme Saint-Remy, alors que les cathédrales sont pour la plupart la propriété de l'État, donc la ville doit payer. Mais à l'inverse, si l'affectataire a la prétention de revendiquer qu'il ne puisse pas y avoir de manifestation culturelle sur l'orgue, ni de manifestation lumineuse. À ce moment-là, d'une part sur l'orgue, il est peu probable que la municipalité paye l'entretien. Il y a le gros œuvre, y compris le gros œuvre de l'orgue, mais le reste, la municipalité est en droit de considérer qu'elle n'a pas à payer puisque c'est uniquement culturel. À l'inverse, quand on a du culturel, l'éclairage, bien évidemment, est généralement pris en charge pour la totalité ou pour en grande partie par la puissance publique. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont, non pas floues, mais qui sont à géométrie variable selon les bonnes volontés réciproques. On retrouve cela également sur la recette, parce que malheureusement, en ce bas monde, tout le monde a besoin d'argent, même les paroisses. Et donc, quand il y a des concerts, par exemple, la question des dédommagements de l'affectataire pour le dérangement de ses chaises ou des horaires de ceci ou cela se pose aussi. Et donc, on arrive généralement à un compromis qui est validé par la répartition des recettes. Donc la plupart du temps, il n'y a pas de problème. De temps en temps, il y a des paroisses qui ont une position maximaliste à ne pas vouloir de manifestations hors culte. Elles n'y sont pas fondées juridiquement, mais comme elles peuvent mettre un élément de culte n'importe quand, elles peuvent effectivement paralyser. À l'inverse, la plupart du temps, les choses se passent bien. De temps en temps, j'allais dire une poussée de fief de part et d'autre, tendance à vouloir montrer que chacun a un droit de cité à l'intérieur, mais la plupart du temps, cela peut s'arranger assez raisonnablement. Alors là, dans le cas de Saint-Remy, pour y revenir, se pose aussi la question de la gratuité ou pas du spectacle.
Justement, Jacques Cohen, puisque vous parlez de la potentielle gratuité ou pas du spectacle, on a aussi envie de savoir, et vous pourrez, prolonger votre propos, mais qui paye quoi ? C'est ce que l'on veut savoir aussi.
Eh bien, pour prendre un exemple, la ville avait proposé, il y a quelques années, de mettre en place une représentation du labyrinthe et des documents correspondants dans la cathédrale. L'archevêché avait préféré dire qu'il s'en chargeait. Il s'en déchargeait sous la forme de trouver des mécènes qui l'ont payé, ce qui fait que la ville n'a pas eu à payer, pour même si la ville aurait voulu faire quelque chose d'un peu plus ambitieux que ce qui a été fait. Donc vous voyez que là aussi, pour l'argent, tout le monde va le chercher, si possible, en dehors de la poche du contribuable ou du paroissien quand on peut y arriver. L'autre élément, c'est que ce spectacle payant ne paraît pas personnellement une bonne idée. Au moment où on s'aperçoit que les musées gratuits sont une bonne solution de fréquentation, profiter que le spectacle est en intérieur pour y mettre un guichet, alors que le spectacle extérieur, par définition, est gratuit, ça ne me paraît pas d'une cohérence totale, ni d'un attrait touristique excellent. Comme vous savez, il y a aussi une discussion qui est menée depuis longtemps, qui est une impasse en France, c'est la question du paiement des visites à l'intérieur, des visites touristiques. Ça se passe dans d'autres pays, chez nous, finalement, jusqu'à présent, aussi bien la puissance publique que l'Église s'y est toujours opposée. L'Église disant que chacun peut venir librement parce qu'il peut des fois être touché par la grâce, et la puissance publique disant que ce qui lui appartient est aussi un atout, pour appartient à tous les citoyens, mais est aussi un atout d'attraction touristique, et que ce n'est peut-être pas une très bonne idée de faire payer, quoique l'entretien coûte cher à tout le monde. Pour l'instant, on en est encore dans ce statu quo sur les visites et donc les spectacles payants. Je pense qu'il est difficile en France de changer et de passer à un système payant comme c'est le cas par exemple en Espagne, mais on verra avec l'évolution des choses. En tout cas pour le spectacle qui est prévu, on peut souhaiter d'une part qu'il soit de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de concession sur son niveau culturel et sa qualité artistique, qu'il soit donc confié à de bons artistes, donc pas uniquement même au moins 10 ans. Et d'autre part qu'il puisse être mis en place rapidement et qu'il participe à l'attraction touristique de notre cité.
Eh bien merci professeur Jacques Cohen de nous avoir éclairé sur ce nouveau spectacle Son et Lumière qui devrait donc voir le jour normalement pour cet été à l'intérieur de la basilique Saint-Remi de la ville de Reims. On rappelle bien qu'il n'a rien à voir avec le spectacle extérieur Regalia qui lui est projeté même un peu plus loin que l'été d'ailleurs sur la façade de la basilique Saint-Remi Regalia et également sur la façade de la cathédrale avec deux histoires qui normalement se suivent. Merci professeur Jacques Cohen. Vous pourrez aussi prolonger votre propos sur votre blog jhmcohen.com. À très bientôt.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on ne change pas nos bonnes habitudes à 18h20, c'est un peu notre point de repère chaque soir. Jean-Pierre, vous êtes toujours avec nous à 18h20, un maire qui nous parle. Ce soir, c'est Hubert Houdin de Semid qui est en ligne avec vous.
Hubert Houdin, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous, monsieur le maire Hubert Houdin. On est très heureux de vous avoir des Ardennes, bien entendu. Pouvez-vous nous présenter un petit peu la commune de Semid? Combien d'habitants et où se situe-t-elle pour nos amis marnais?
Ah, pour bien le situer, on se trouve, alors ça va être un petit peu prétentieux, mais si on place Semid au centre, on se trouve à 47 km de Châlons en Champagne, hein, en prenant par exemple la RD77. On se trouve à 45 km de Reims, si on va vers l'ouest, et 54 km de Charleville. Voilà, le centre, on pourrait dire, c'est le fameux peut-être carrefour de Mazagran. On se trouve à 5 km de Mazagran.
Hubert Houdin, je vous interromps, mais bien sûr, ça fait loin au niveau des distances, mais vous n'êtes pas très loin de Vouziers cette fois quand même.
Alors, bien sûr, nous sommes... Oui, excellent rappel. Vouziers est notre centre d'accueil aussi, puisqu'on se trouve à 11 km de Vouziers.
Ça veut dire que si vous, il n'y a pas toutes les commodités, toutes les possibilités à Semid, mais en 11 km, on est tout de suite en ville, on est à Vouziers.
Ah oui, on est... Je ne dis pas qu'on y est tous les jours à Vouziers, mais on y va... très très souvent.
Alors combien d'habitants à Semid, Hubert Houdin?
Alors, dans les années 50, je fais un tout petit peu d'histoire, je suis né à Vouziers, il y avait exactement, quand j'étais élève, 317 habitants. Hein, bon, il y avait des familles très très nombreuses. Dernier recensement, 185 habitants, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un nombre d'habitants qui a progressivement diminué. Par contre, j'ai le grand plaisir, là, parce qu'on vient de faire le calcul, on est remonté à 208 habitants.
Ça, c'est-à-dire
que là, oui, là, je suis très très content. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'attractivité du village, en travaillant beaucoup sur le cadre de vie, qualité de vie. On est classé 4 fleurs depuis plus de 20 ans. Ce qui est un record au niveau national, parce qu'on travaille beaucoup sur, effectivement, l'attractivité et puis la beauté, le côté un peu séduction du village, parce qu'effectivement, on a quand même une chance, c'est que le village se trouve dans un vallon, avec 3 petites vallées, en fracture du plateau calcaire, qui est le plateau de Mazagran, qui va en direction Suippes puis Reims.
Alors il faut dire, Hubert Houdin, qu'il y a donc des habitants qui sont là depuis longtemps, mais il y a donc peut-être des nouvelles arrivées. On en a entendu pas beaucoup parler avec le maire. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'aller quand même à la campagne. Ils ont souvenir du Covid, pas très loin de Vouziers, c'est idéal.
Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Il y avait des maisons parce que la population a vieilli, il y avait des maisons vides, et en fait là, maintenant en urbanisme, on parle de dents creuses, eh bien les dents creuses, elles sont utilisées, hein, et puis il y a des jeunes qui s'installent aussi, et ce qui est très très bien, très bien.
Alors, vous-même, oui. Hubert Houdin, on va revenir oui. sur la commune, vous êtes maire depuis combien de temps à Chemide?
Alors, je suis maire depuis 2014. Il se trouve que je suis parti en retraite fin avril et deux jours après mon élection, je suis parti en retraite. Je travaillais dans une grande maison rémoise.
C'est ça, Géraudin, on vous a connu. Alors, finalement, dans votre activité d'aujourd'hui, on dit souvent d'ailleurs, on l'entend au congrès de l'Association des maires qui vient d'avoir lieu à Paris, il y a oui. beaucoup de gens qui capitulent parce que c'est une charge quand même d'être maire. C'est lourd plus qu'on ne le pense. Il y a des paperasses, il y a des gens qui vous embêtent, gentiment, mais parce que vous êtes le seul interlocuteur. On connaît son maire dans un village.
Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était un des objets qui était abordé hein, au dernier congrès. Je vais tous les ans au congrès. Pour moi, c'est très enrichissant, c'est passionnant. Ça m'apporte beaucoup. Et donc, oui, c'est une préoccupation. Alors, le gros problème, effectivement, on l'a encore traité hier soir parce que j'avais un conseil, disant que l'administratif, enfin la partie administrative est très exigeante et lourde. On en subit les conséquences, hein, y compris pour les secrétaires, c'est très très dur. Et puis, il y a eu aussi les difficultés qu'on peut rencontrer avec la population. Ça n'a pas été mon cas pour ce bide. Hein. En revanche, l'atmosphère est
bonne.
Est bonne, oui. Alors, une animation aussi avec les associations.
Hubert Houdin, on va revenir avec les associations, mais est-ce que il y a des projets qui sont actuellement en cours ou qui viennent de s'achever? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez sur le grill en ce moment?
Oui, c'est très très lourd. Bon, j'ai commencé de toute façon mon premier mandat de maire, j'étais adjoint auparavant, hein, j'ai fait deux mandats d'adjoint. J'ai démarré par, la réhabilitation d'un site historique qui est classé. C'est l'emplacement d'une pièce d'artillerie allemande, il y en a que 7, donc il fallait la rénover, la protéger, etc. Elle est aujourd'hui, c'est un lieu touristique. Et puis, le deuxième, c'est que j'ai entamé au premier mandat l'enfouissement de tous les réseaux, ce qui fait qu'on n'a plus un seul poteau, y compris même les lignes qui sont autour, les lignes à haute tension. Tout cela a été, ce qui fait que... ça contribue à l'intérêt du paysage.
Et ça fait, je vous interromps encore, Hubert Houdin, oui. mais pour les gens qui viennent, aujourd'hui, ils sont attachés, les nouvelles populations, au développement durable, à l'environnement, au cadre de oui. vie. Vous avez une quatrième oui. fleur. Mais là, le fait que ça soit enfui, le fait que vous organisez le village, ça aussi, c'est un élément majeur qui compte.
Ah oui, absolument, hein. Oui. Parce que on a des visiteurs maintenant et qui sont, je veux pas être orgueilleux, hein, mais qui nous disent, mais qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est beau, etc. Parce qu'il y a énormément de verdure, hein. Il y a aucun trottoir avec du béton. Tout est enherbé. Et les maisons, les fermes sont ouvertes. Et voilà. Donc, c'est important. Alors, cela dit, les projets ne s'arrêtent pas. Là, je démarre un très gros projet. On a une salle polyvalente qui est en mauvais état, c'est-à-dire qu'on va reconstruire une salle polyvalente, vraiment polyvalente au sens premier, enfin au sens du terme, hein, c'est-à-dire que salle polyvalente, ça ne sera pas simplement une salle de fête, hein, mais on a l'intention, et c'est un peu ce qu'on fait aussi, hein, qu'elle soit ouverte aux associations.
Un lieu de rencontre.
Et puis, voilà. Et puis elle est contre l'église, et la salle qui existe et qui existera, notre église sur laquelle on vient de faire des travaux encore, de ravalement d'une part et particulièrement du clocher, on aura encore du travail, le cimetière est autour, mais lorsqu'il y a des obsèques, notre église n'a pas de bas-côté, et donc elle est vite pleine, et là, quand il y a par exemple des obsèques, les gens sont installés dans la salle polyvalente qui est tout près.
Tout près.
Et on a l'intention, en refaisant la nouvelle salle, de effectivement de maintenir cela et d'ajouter même une vidéo pour les deux.
Hubert Audin, on parlerait avec vous pendant des heures. D'ailleurs, on vous retrouvera tout prochainement, j'imagine, sur RCF. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci, au revoir Jean-Pierre Benoît.
La semaine prochaine dans l'émission, lundi, ce sera Benoît Carrier, le maire d'Aubencourt dans le département des Ardennes. Il est pratiquement 18h30 et à 18h30 tous les soirs, on retrouve Alexis Claudretz pour le journal régional du magazine.
Avec les titres de ce vendredi 9 février, alors que les soldes d'hiver 2024 se sont achevés mardi, les commerçants chalonnais témoignent d'une baisse de chiffre d'affaires. Décryptage. Ce week-end, l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, ouvre ses portes. Zoom sur l'événement avec Audrey Ginest, chargée de communication du campus.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Puisque l'on va parler des soldes et que Jean-Pierre est là, c'est l'occasion de vous demander, vous avez profité, vous Jean-Pierre, un petit peu des soldes d'hiver, un petit gilet, un petit pantalon?
Oui, mais c'est vrai qu'en ce moment, la période des soldes, elle est un peu contrariée parce que il y a des soldes un peu en amont, un peu en aval, il y a ce qu'ils appellent les soldes privés. On ne sait plus trop, mais on ne s'y retrouve pas toujours, hein, Alexis.
Eh bien justement, les soldes d'hiver officiels viennent de se terminer ce mardi 6 février, au soir, un bilan amer pour les commerçants chalonnais.
Avec le contexte actuel, je dirais que c'est pas facile, on a pas mal de choses à prendre en compte. Entre l'augmentation, tout ce qui augmente et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui se passe, les manifestations, etc.
Période de solde compliquée, pas forcément à cause du contexte. Surtout galvaudé par le problème des Black Friday qui en novembre détruisent le marché de Noël et des soldes. Puisque aujourd'hui, dans toutes les grosses enseignes, c'est le plus gros moment. Et après, la météo, c'est les deux facteurs importants.
L'Union commerciale, industrielle et artisanale de Châlons avait renouvelé son opération prix fracassé la semaine dernière dans les commerces du centre-ville de Châlons. Une opération qui a permis de rebooster les soldes pendant au moins 2 jours.
Un booster hyper important. Ça a été mis en avant dès le mardi. Et en fait, dès le jeudi, on avait des gens qui venaient profiter des prix fracassés. Donc, il fallait être un peu en avance, mais on l'avait prévu. Et ça a été un accélérateur phénoménal.
Ça a permis de rebooster clairement pendant 2 jours, puisque les gens savaient que c'était vendredi et samedi uniquement. Et faire des prix davantage sur des prix déjà remisés. Donc, c'était vraiment des affaires à faire.
Pour l'animatrice des vitrines de Châlons, Pauline Blanc, l'UCIA compte bien poursuivre cette opération qui connaît un grand succès.
On a eu des retours plutôt positifs sur les prix fracassés des soldes 2024. On a eu déjà plus de 40 boutiques participantes. Pour la plupart, les prix fracassés ont aidé à amener encore plus de monde, notamment pour les boutiques qui avaient pu sortir avec soit des barnums, soit avec de simples étals devant chez eux. Ça permet de faire franchir le pas de la porte aux clients plus facilement. Pas mal de monde pour la plupart des participants, donc c'est une opération qui sera reconduite pour l'année prochaine.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Pour ceux qui ont l'habitude de nous rejoindre à RCF ou qui circulent à Reims et qui empruntent la rue du Barbâtre, attention, celle-ci devient interdite à la circulation à partir du 26 février afin de libérer le terrain pour les travaux de création de la voie des Sacres. Un plan de circulation avec toutes les précisions est à retrouver en page 11 chez nos confrères de l'Union ce jour. Et puisque l'on parle des gens qui pourraient nous rejoindre à RCF, on pense aussi à nos auditeurs qui nous rejoignent chaque jour, Jean-Pierre. On en parlait en début de magazine régional. Mercredi prochain, 14 février, mercredi décembre, entrée en carême. RCF, RCF Reims-Ardennes en particulier, mais aussi nos amis de RCF Cœur de Champagne qui proposeront des programmes locaux à n'en pas douter autour de cet événement. RCF s'associe plus particulièrement à ce carême 2024.
En effet, mercredi, le 14 février, à 7h et 8h, nous aurons en direct dans ces studios Mgr Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Et puis, à 7h40, tout aussitôt, on retrouve à nouveau l'archevêque de Reims qui lancera toute une série d'émissions qui aura lieu tous les jours pendant ce carême avec des invités que vous aurez, Alexis, à votre micro, des prêtres, des religieux, des religieuses qui parleront de leur carême à eux.
Et puis Jean-Pierre, on reste sur les rendez-vous, on va spoiler la surprise parce que même au niveau national, RCF commence légèrement à en parler. Au moment de la Semaine Sainte, il y aura un rendez-vous tout à fait particulier que RCF propose chaque année au niveau national. Et cette année, le rendez-vous national, il s'inscrit aussi dans la dimension du diocèse de Reims et des Ardennes.
Absolument, chaque année depuis pratiquement 30 ans, RCF
RCF Serveur, c'est-à-dire le réseau national, se rend dans une région de France, dans une abbaye, on se souvient dans Calca, dans le sud de la France, dans d'autres lieux prestigieux, dans des monastères. Eh bien, cette année, c'est au monastère de Saint-Thierry, dans le département de la Marne, que se trouvera toute l'équipe de RCF Lyon.
On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Et nos studios sont installés, nous, à la maison Saint-Sixte. Et c'est demain, dans ces murs, que l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, ouvre ses portes aux futurs étudiants de l'école et à leurs parents. L'occasion, lors de cette journée, de découvrir un site qui allie histoire et modernité, mais pas que. Audrey Gineste, chargée de communication à l'ICP Reims.
Vous pourrez assister à des conférences sur pourquoi choisir l'ICP, des conférences sur les différentes formations que nous avons, rencontrer nos enseignants, nos étudiants, et cette année il y aura également un stand du Crous qui sera là tout au long de la journée pour renseigner les futurs étudiants sur les bourses, les logements et la restauration.
Ouvert depuis septembre 2021, l'antenne rémoise continue de faire évoluer son offre de cursus proposés avec des formations post-bac, mais aussi la possibilité de rejoindre l'école en master.
Donc nous avons 5 licences sur Parcoursup, la licence Histoire-Géographie, Information et Communication, Sciences Sociales, Droit et Sciences de l'Éducation. Donc la nouveauté, c'est que la licence Sciences d'Éducation est également disponible sur le site de Nancy dès septembre 2024. Nous avons donc 4 masters, 2 masters MEF, donc un master MEF premier degré professeur des écoles et un master MEF encadrement éducatif. Et en septembre 2024, nous ouvrons 2 masters que nous avons conçus en lien avec le territoire, le master gestion PME et PMI et le master gestion des exploitations agricoles et viticoles.
Les portes ouvertes de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, c'est donc ce samedi de 10h à 17h, entrée par le CIRU du lieutenant Erdouin. L'agenda des sports est fourni avec du basket. D'abord, ce week-end, le Champagne Basket reçoit Lille ce soir à 20h au Palais des Sports. Pierre de Coubertin de Chalon en quête d'une 6e victoire consécutive. Il y aura aussi du football avec un choc de la D1 Arkema. Le Stade de Reims, 4e avec 21 points, reçoit Montpellier, 5e, 19 points à 21h. Attention, la rencontre est délocalisée exceptionnellement au stade Auguste Delaune. Une victoire permettrait aux Rouges et Blanches de prendre une option sur la participation aux phases finales du championnat en fin de saison, puisque les 4 premières équipes du championnat sont qualifiées pour une sorte de format play-off. Les garçons du Stade de Reims, quant à eux, devront attendre dimanche 15h pour jouer un déplacement à Lorient à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1. Autre rendez-vous ce soir en volet, cette fois pour la 20e journée de Ligue 1. Chaumont se déplace à Toulouse, coup d'envoi à 20h. On termine cette édition par la météo proposée par Mélissa Tavares. Mélissa, vous connaissez la question. Quelles sont les tendances pour samedi et dimanche en Champagne-Ardenne?
Ce week-end, samedi comme dimanche, même scénario que cette semaine, nous aurons un triste week-end en Champagne-Ardenne. Samedi, le matin comme l'après-midi, nous aurons un temps morose dans l'ensemble des départements qui seront engloutis sous la pluie durant toute la journée. Les thermomètres afficheront au minimum 9 degrés et au maximum 12 degrés. Passons à dimanche, où le ciel sera assombri par les nombreux nuages gris prévus dans une grande partie de la Champagne-Ardenne. Dans les Ardennes, la pluie tombera dans les villes de Charleville-Mézières et de Rethel. Bien sûr, qui dit nuage gris dit bien évidemment le retour de la pluie qui arrosera l'ensemble des départements. Mais malgré les précipitations de la semaine, ce sera le retour de notre magnifique soleil qui essaiera toutefois de se frayer un chemin des nombreux barrages des nuages et de la pluie. Le mercure grimpera au maximum jusqu'à 10 degrés. Ce week-end, nous fêterons les Arnaud et les Héloïse. Nous vous souhaitons une bonne fête à tous.
Merci Mélissa. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
On est ensemble jusqu'à 19h, encore une vingtaine de minutes environ à partager ce soir dans ce magazine régional. Tout de suite, on vous propose une rencontre portrait installée en Givry en Argonne. Grégory L'Herbier réalise des stylos magnifiques, faits main. Pas un pareil, tous très originaux et même personnalisés jusque dans les matières utilisées. Jérôme Gorgeau est parti à sa rencontre.
Nous sommes à Givry en Argonne, vraiment un petit village que je vous conseille de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment très joli. Et là, on a un artisan, un faiseur, quelqu'un qui a vraiment un magnifique talent. C'est Grégory L'Herbier. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Alors là, Grégory, on est entouré de magnifiques stylos en bois. Enfin, il y a du bois, il y a de quoi, il y a de tout.
Il y a du bois, il y a de la résine, il y a des fleurs coulées dans de la résine, il y a des grains de café.
J'adore faire de la radio, mais quand je vois des beaux objets comme ça, je regrette de ne pas pouvoir les partager avec nos auditeurs, car c'est vraiment des objets magnifiques, c'est des vraies petites créations, il n'y a pas un stylo qui se ressemble. Ils sont très beaux, ils sont vraiment très très beaux, je suis vraiment sous le charme. Et on est donc ce qui s'appelle le comptoir de l'Herbier, c'est ça, hein ? Je
c'est bien ça,
sur
ouais.
Votre nom de famille en fait.
Sur le nom de famille, oui.
Alors Grégory, vous êtes de l'Argonne au départ, pas du tout ? Vous êtes un originaire du coin ?
Pas du tout. Je suis originaire du Pas-de-Calais.
Qu'est-ce que vous faites là ?
C'est une très bonne question, je me le suis demandé et on s'y fait en fait, hein, on le vit bien.
Depuis combien d'années vous êtes là ?
Depuis 2002, j'étais militaire à Lille. Et je suis arrivé, en fait, dans la Marne, par mutation, en fait, pour l'armée.
Et voilà. Ça vous a plu ?
Le choc en sortant d'une agglomération comme Lille, en arrivant à Mormelon, ça a été, simple tout de suite. Et puis, en fait, on découvre une région. Mes filles sont nées dans la Marne, et puis au final, on y est très très bien, quoi.
Bah, vous êtes en Argonne, l'Argonne, c'est magnifique, quoi.
C'est magnifique, effectivement.
Dans la Marne. Revenons à vos produits. Donc, j'entends que vous avez été militaire.
Oui.
Là, on ne parle pas militaire. On parle. Donc, comment on arrive de militaire il y a quelques années, en début des années 2000, à aujourd'hui où on a un artisan, un faiseur, un créateur ? Comment ça arrive tout ça ?
En fait, si vous voulez, mes dernières années d'armée, je les ai vraiment mal vécues. Donc, j'ai cherché un échappatoire et ça a été le tournage. Hein, le tournage sur bois. Je passais beaucoup de temps dans le garage. Ça me permettait d'évacuer un petit peu.
Mais des affinités pour ça au départ ? Ou vous êtes essayé un jour et vous avez découvert que ? Ou alors il y a quelqu'un dans votre famille ? Il y avait un ami ?
Non, personne. Je suis autodidacte. Mais j'aime bien le bois. J'aime bien découvrir. Et surtout... les métiers comme tailleur de pierre, les vitraillistes, enfin tous ces métiers d'art, voilà, ça me fascine vraiment. Et donc j'ai essayé, ça m'a plu et j'ai continué.
C'est pas facile de se lancer comme ça dans
alors, c'est pas facile, mais je faisais ça juste pour le plaisir et pour évacuer. Donc au final, on apprend sur le tas et c'est très très bien. Là où ça m'a apporté des problèmes, c'est que ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'ouvrir une auto-entreprise pendant que j'étais militaire.
Ah oui, en fait.
Voilà. Pas... Et je voyais la pub à la télé, créer votre auto-entreprise, c'est pour tout le monde et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Il s'avère qu'a priori, j'ai été le premier militaire à créer une auto-entreprise et qu'ils ont dû embaucher un avocat pour savoir si j'avais réellement le droit.
On est à quelle époque alors, à peu près là ?
On est en 2009.
2009. Donc, du coup, je suppose que ça accélère la fin de votre aventure militaire.
2010. Effectivement
ça l'a accéléré. Je crois savoir, vous avez été tatoueur ou j'ai rêvé ?
Non, vous n'avez pas rêvé parce que depuis 2010, j'ai mon studio de tatouage. Alors, j'ai commencé en 2010 à Saint-Pénéhould. Et en 2014, je suis arrivé sur Chalon et je l'ai encore maintenant.
D'accord. Alors... C'est dingue parce que là, on est vraiment sur quelqu'un qui a des mains en or. Parce que il y a le tatoueur d'un côté et il y a le faiseur d'objets magnifiques que vous faites en bois, création de bois. L'un aurait pu vous suffire, j'ai envie de dire par provocation un petit peu.
L'un suffit. Je pourrais très bien être tatoueur et ne faire que ça, mais j'ai un petit peu de temps à perdre. Donc je le perds
pour
utilement.
Tout le monde, hein. Ah oui, ah, bah, voilà. Parce que c'est là, ça, ce sont vraiment des objets mais magnifiques. C'est d'une création, c'est vraiment très beau, puis c'est très varié. Est-ce que vos crayons, ils sont tous différents ?
Tous. Ce soit dans le bois, dans la forme, je m'impose rien, je fais pas de dessin avant.
Vous improvisez en faisant ?
Ah oui.
Vraiment, Grégory, c'est magnifique. Je vous remercie de nous faire découvrir ça. Et puis, allez voir, on vous trouve sur Facebook aussi, sur Internet.
Sur Facebook, oui, le comptoir de l'Herbier.
Écoutez, en tout cas, vous êtes fait du bon bois, le bois des créateurs inspirés, des créateurs doués, des créateurs sympathiques en plus. Donc, changez rien,
merci
si
beaucoup.
Je peux me permettre. Merci beaucoup, Grégory.
Merci, Grégory L'Herbier. Merci, Jérôme Gorgeau.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Comme on en a l'habitude, le vendredi, on retrouve Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, en alternance avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Mgr Étienne Véteux était en ligne depuis Ars avec Jean-Pierre ce matin.
Mgr Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde.
Vous êtes en direct d'Ars, dans le département de l'Ain, où se tient en ce moment, dans ce village du curé d'Ars, depuis dimanche, une session de prêtres et d'évêques de la province de Reims autour du sacrement du pardon. Pouvez-vous nous dire, Mgr Étienne Véteux, ce qui se passe, quel est le contenu de cette session et comment l'avez-vous vécu ?
Alors, il s'agit, comme vous l'avez dit, nous sommes à Ars, le lieu du Saint-Curé d'Ars, qui a eu un ministère extraordinaire de confesseurs. Et le thème de cette session, c'est l'importance de la confession. Où nous voyons, en fait, nous sortons de cette conférence, elle termine aujourd'hui avec le goût, nous avons vu expérimenter le goût de la miséricorde de Dieu qui peut passer par ce sacrement. Alors on sait que c'est pas toujours facile d'y aller, de confesser ses péchés, mais notre expérience et ce que l'on voudrait partager avec tous les fidèles, c'est à quel point il est libérateur. Moi, je pense que je retiens l'idée que quand on confesse ses péchés, au fond, on est en train de confesser l'amour de Dieu. On est en train de dire à Dieu, j'ai confiance que tu m'aimes suffisamment pour que je puisse dire mes péchés et que je vais recevoir ta miséricorde. Je suis aussi frappé du fait que les prêtres eux-mêmes, ils vivent un moment très fort. C'est quelque chose qui est sorti que dans nos partages, c'est que c'est pas simplement un moment fort pour celui qui vient se confesser. Le prêtre aussi lui-même découvre la beauté de ce qui se passe et puis même découvre ses propres péchés.
Ce sont les images que vous retenez, Monseigneur.
Bon, je dirais l'image que je retiens, c'est celui aussi de la vie fraternelle. Nous étions 135, c'est beaucoup, des 7 diocèses de la province, Reims, Troyes, Chalon, Soissons, Langres, Amiens, Beauvais. Il y avait les 8 évêques de la province, donc c'était très fort de ce point de vue-là, un temps fraternel, un temps de prière ensemble. Et hier après-midi, un moment de confession justement pour les prêtres où les 135 que nous étions, étions dans la chapelle en train de se confesser et de découvrir cette même joie de la miséricorde de Dieu.
On aura l'occasion d'en reparler, Monseigneur. Nous allons entrer dans le carême et durant ce temps qui nous conduit vers Pâques, des célébrations de pardon seront proposées dans le diocèse et ça sera, j'allais dire, presque l'application pratique de ce que vous avez vécu.
Tout à fait. Je pense que si j'avais une chose à dire pour le carême, ce serait profiter de ce magnifique moment, cette magnifique possibilité.
On évoque bien sûr le curé d'Ars, cette figure emblématique, mais c'est aussi l'occasion de saluer, de remercier. Et je crois que vous voulez le faire, d'encourager, de prier pour les prêtres religieux, religieuses. Puisqu'il y a quelques jours, vous avez participé à la fête de la vie consacrée qui avait lieu à Reims et au Carmel de la Fontaine-Olive. C'était dimanche dernier, Monseigneur.
C'est ça. Tous les ans, autour du 2 février, la fête de la présentation de Jésus au Temple, qui est aussi la fête de la vie consacrée, il y a deux rencontres des religieux et religieuses du diocèse, une à Reims et une pour les Ardennes. Donc là, cette année, au Carmel de la Fontaine-Olive, personnellement, j'ai participé à celle de Reims. C'est une joie simplement de se voir, de se retrouver. Nous étions une cinquantaine, je pense, dans celle de Reims. Les religieux et religieuses sont, pour le diocèse, un témoignage de radicalité qui interpelle. Dans un sens, si on comparait l'Église à un corps, je pense que ce serait les poumons de ce corps. C'est le souffle qui passe par là.
Dans le diocèse de Reims et des Ardennes, ce dimanche, 11 février, il y a aussi des confirmations à Arcy, dans le département des Ardennes.
C'est ça, en Ardennes Nord, à Arcy, j'aurai la joie d'aller confirmer un groupe de jeunes de 11 à 15 ans. C'est comme toujours très beau de voir des jeunes qui s'engagent. Je les ai rencontrés il y a 2 semaines et ils ont exprimé ce désir de s'engager durablement dans la foi. C'est le sens de ce que veut dire confirmer. Confirmer, ça veut dire rendre ferme, ratifier. Je ratifie ma foi. Et dans notre époque, c'est un beau témoignage de voir des jeunes qui désirent vivre cela.
Alors ce dimanche aussi, 11 février, c'est la journée mondiale des malades, dimanche de la santé, fête Notre-Dame de Lourdes. L'importance de la prière, il y a tout ça en même temps, Monseigneur.
Oui, c'est un dimanche très riche. Donc au niveau mondial, la journée mondiale des malades, Pour l'Église, c'est aussi le dimanche de la santé. Et puis, il se trouve que cette année-ci, ça tombe sur le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Donc, Lourdes, on connaît l'importance que ça a comme lieu d'accueil et de prière pour les malades. Je pense que pour nous tous, c'est une interpellation à prier pour les malades qui sont proches de nous, pour les autres. Et puis aussi de penser à ceux qui les entourent, les soignants, les aidants, et de se rappeler que dans le diocèse, il y a une pastorale qui leur est dédiée avec des visiteurs. Ça s'appelle le service évangélique des malades, le SEM. Jésus disait que si ceux qui l'avaient visité, ceux qui avaient visité des malades, en fait, lui avaient rendu visite à lui. Et c'est vrai que mon expérience, chaque fois que je rencontre un malade et qu'on a l'occasion de prier ensemble, de parler ensemble, c'est de voir le visage du Christ.
Évidemment, cette pastorale du diocèse, on la reçoit beaucoup sur RCF avec Sybille Deschamps, Paul Hernevagne, que l'on salue, et toutes les équipes du SEM. Alors si on regarde l'agenda, Monseigneur, il faut noter un rendez-vous, ce sera mardi prochain, le 13 février, une conférence à 18h30 à l'ICP, c'est vous qui l'animez, une conférence sur le thème anthropologie et création. De quoi s'agit-il ?
Alors, ce sont des conférences dans une série, les grandes conférences, elles s'appellent, qui sont sur la vie. Quel est le sens à la vie, quel est le sens de ma vie. Et ici, l'édition de ce mardi-ci sera à deux voix, Thierry Delcourt, qui est pédopsychiatre, et moi-même, où nous allons essayer de montrer comment Dieu crée, bien sûr, mais il partage avec nous ce fait de créer. Nous avons la capacité d'avoir des idées nouvelles, la création artistique, même construire une relation et quelque chose qui est une création. Et ça fait partie de l'être humain, c'est quelque chose qui nous épanouit. Et donc nous allons réfléchir, discuter sur cette question. Ça aura lieu à l'ICP Campus, à 18h30 ce mardi 13.
À 18h30 à l'ICP Campus de Reims. Et puis c'est le début du carême la semaine prochaine, il y a pas mal de rendez-vous. D'ailleurs on va vous retrouver, vous, Monseigneur Étienne Véteux, et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort également.
Oui, peut-être que la chose la plus importante à dire aujourd'hui, c'est que le carême commence mercredi. Avec le mercredi des cendres. Bien sûr, je rappelle que c'est l'occasion... En fait, c'est une montée vers Pâques, le carême. C'est une montée vers la joie de Pâques. Et dans cette montée vers Pâques, la confession est un moment fort. Ce sera proposé, je pense, dans tous les espaces missionnaires. Et comme tous les carèmes, il y aura des conférences de carême. Cette année, l'archevêque, tous les vendredis soirs, à 20h, à la Maison Notre-Dame, donnera des conférences sur Jésus et l'Église. Donc contempler Jésus comme envoyé, et puis méditer la mission de l'Église, des disciples de Jésus, etc.
Alors c'est vrai que ces conférences, elles vont avoir lieu, vous l'avez rappelé, tous les vendredis à partir du 16 février, c'est à 20h à la Maison Notre-Dame, c'est sur YouTube Diocèse de Reims, il faut bien le préciser en direct. Et puis nous, on les reprend le mardi suivant, Monseigneur, à partir de 19h30 jusqu'à 20h30 tous les mardis.
Oui, c'est une grande tradition dans l'Église, les conférences de carême, et ça peut être aussi un bon moment pour se retrouver soit directement à la Maison Notre-Dame, soit à travers le fait de visionner ensemble sur KTO, ou bien de le reprendre le mardi suivant, comme vous avez dit Jean-Pierre, sur RCF.
Merci Monseigneur, on vous souhaite une bonne fin de session à Ars, et on vous retrouve tout prochainement, bien sûr, avec nous, en direct sur RCF.
Merci Monseigneur, merci Jean-Pierre.
Le 18-19 sur RCF.
Et un dernier invité pour terminer ce magazine régional. La 7e journée Bougeons-nous contre le cancer de Vitry-le-François se prépare avec 30 stands d'information autour de la prévention du cancer avec le soutien de l'Institut Gaudinot de Reims. Vendredi prochain, le 16 février, de 10h à 17h30, la salle du manège de Vitry-le-François accueillera cette mobilisation. Christiane Paris, présidente de l'association Arc-en-Ciel Vitria.
Christiane Paris, bonjour.
Bonjour Gérald et bonjour aux auditeurs et auditrices de RCF.
Nous sommes donc dans les locaux de l'association Arc-en-Ciel parce que, Christiane, la journée Bougeons-nous avec le cancer 2024 est programmée.
Voilà, elle est programmée pour la 7e édition, le vendredi 16 février, à la salle du manège.
Que allons-nous découvrir dans cette salle ?
Comme chaque année, il y aura des professionnels du secteur médical, paramédical, social, qui seront présents à leur stand, ils sont 30, et ils accueilleront les visiteurs qui voudront bien franchir la porte de la salle du manège, et je le souhaite vivement parce que c'est une journée très très intéressante, vraiment sans stress, en toute convivialité. Les échanges sont faciles avec les professionnels et ça serait vraiment dommage de manquer cette opportunité d'information. Information sur la prévention et sur le dépistage du cancer.
On dit toujours dans la prévention, si on l'avait su, on n'aurait pas fait ci, on n'aurait pas fait ça. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas attraper un cancer ?
C'est pas attraper parce que ce n'est pas un virus, mais ne pas développer un cancer. Parce qu'on sait que potentiellement, chacun de nous peut développer un cancer. Mais après, voilà, c'est l'environnement, c'est notre hygiène de vie qui fait qu'un jour ou l'autre, on va développer ce cancer à un endroit précis, sur un organe précis. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, les statistiques et les études des chercheurs le prouvent, hein, d'année en année, presque la moitié des cancers pourraient être évités si on arrêtait le tabac. Je crois que c'est déjà le premier geste à accomplir pour préserver sa santé, et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai beaucoup fumé auparavant, ce qui m'a causé quelques gros ennuis de santé. Limiter sa consommation d'alcool, hein, quand on dit limiter, c'est vraiment au strict minimum. Bouger, ne pas rester assis trop longtemps devant son ordinateur ou devant sa télévision, devant ses jeux vidéo. Bouger toutes les 30 minutes, se lever, faire quelques pas, sortir, s'aérer, etc. Et puis aussi s'alimenter correctement, de façon intelligente, avec des produits cultivés de façon raisonnable, sans trop d'engrais ni de pesticides, etc. S'alimenter correctement avec des menus équilibrés aussi, hein, faisant la part belle aux céréales complètes, aux légumes, aux fruits. Et surtout un peu moins de viande rouge.
Alors, dans cette salle du manège, donc vendredi 16 février, de quelle heure à quelle heure ?
Donc de 10h à 17h30, sans interruption, entrée gratuite, accès au stand gratuit, aux conférences également, restauration rapide sur place. Donc on y trouvera dans cette salle de manège les trois pôles qu'on a l'habitude de rencontrer chaque année. Un pôle qui concerne les services à la personne, parce qu'on le sait qu'on a parfois besoin d'aide lorsqu'on est malade et ou lorsqu'on rentre de l'hôpital et que voilà, il y a des enfants à prendre en charge, à aller chercher à l'école, il y a le ménage à faire, les plats à cuisiner, etc. Donc en ce qui concerne les services à la personne, nous accueillerons le CLIC, bien sûr, Famille Rurale, Domitis, Eidom, Dom Alliance, un nouvel organisme qui s'est installé à Vitry. Ensuite, bien sûr, le pôle prévention et dépistage, hein, c'est la partie importante de cette manifestation, donc avec la CPAM Prévention, qui est toujours à nos côtés, hein, depuis 2017. Nous aurons l'Association française des diabétiques pour le département de la Marne, qui effectuera des contrôles de glycémie. Nous aurons la Ligue contre le cancer, et pour la partie prévention, un stand où elle proposera une sensibilisation à l'autopalpation du sein, qui est important aussi parce qu'on sait que c'est là qu'il y a un manque, hein, chez les dames. Stand de prévention du tabagisme avec un médecin et une infirmière, et qui donnera aussi la possibilité aux visiteurs de contrôler leur tension artérielle. Un stand de prévention du surpoids, de l'obésité, avec l'alimentation et avec aussi le réseau Sport Santé Bien-être, qui proposera aux visiteurs de pédaler pour une petite somme à 2 euros, voilà, pour tester un peu son endurance. Nous aurons un oncogériatre qui sera présent, docteur Kissurli, qui vient aussi à nos côtés depuis plusieurs années, du CHU de Reims, qui animera également une conférence à 14h30 sur la prise en charge de la personne âgée atteinte de cancer. C'est important parce qu'on a souvent des parents qui ont un certain âge et qui sont hélas atteints par la maladie. Des structures qui proposent du yoga, de la réflexologie, de la relaxation, de la sophrologie, la naturopathie, la nutrithérapie, Et deux stands de tatouage paramédical peut concerner les dames qui ont subi une reconstruction mammaire pour la reconstitution de l'aréole, etc. Ensuite, il y aura Arc-en-Ciel Vitria aussi, qui sera là pour échanger avec les visiteurs atteints de cancer ou pas. Hein. Cette manifestation est ouverte à tout le monde.
Christiane Paris, merci. Présidente de l'association Arc-en-Ciel Vitria.
Merci Gérald.
Christiane Paris avec Gérald Gaillet de RCF Cœur de Champagne. Un rendez-vous à noter dans l'agenda donc pour le week-end prochain. D'ici là, profitez déjà de ce week-end qui arrive. Il est l'heure pour nous de vous laisser, toujours en compagnie des programmes de RCF, en de très bonnes mains avec d'abord l'information nationale dans quelques instants et puis les programmes locaux qui reprendront la main à partir de 19h12. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Jean-Pierre, on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et bon week-end.